Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler du doute et de l'obscurantisme. Comment peut-on assurer son assise sur ces opprimés sans qu'ils se rebellent, voire même en faisant en sorte qu'ils vous soutiennent quand ils ne vous acclament pas ? Aujourd'hui, il va sans dire que nous assistons à une baisse drastique de la capacité de chacun à prendre des décisions éclairées. La croyance et l'opinion ne cessent de prendre de la place sur le rationnel. Se documenter pour se forger une opinion relèverait de l'impossible, tandis que l'on s'approprie allègrement des raisonnements tout prêts laissés en pâture. Et pour ceux qui seraient tentés de se renseigner, le chemin est sinueux, avec de nombreuses embûches qui inciteraient à abandonner toute velléité de critique ou qui donneraient de fausses informations. Il faut dire qu'une armée de lobbyistes est payée pour soutenir des intérêts individuels, un intérêt qui semble primer au sein même des entreprises et des administrations où l'organisation se fait non plus sur des critères de compétences, mais plutôt autour d'une hiérarchie de courtisans et d'intrigants qui n'hésitent pas à vendre des fake news à leurs supérieurs pour leur faire plaisir. Voyons donc ensemble quelques aspects de cette fabrique du doute, de l'ignorance, des imposteurs et du déni. Parmi les techniques pour manipuler l'opinion, on peut citer tout simplement l'affirmation. Ainsi, quand Emmanuel Macron déclare
« La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas ?»
Emmanuel Macron ne s'engage ainsi à rien, mais incite fortement ses auditeurs à croire que son gouvernement est très impliqué dans les actions écologiques et efficaces. Encore plus directive pour introduire un débat des européennes sur France 2, l'animatrice Caroline Roux, dans une ambiance digne d'un début de match de boxe, introduit ainsi l'émission.
C'est le grand débat, c'est l'événement de cette campagne des européennes.
Elle manipule ainsi l'opinion en utilisant l'article exclusif LE dans C'est le grand débat, c'est l'événement. Elle semble imposer ainsi que seul ce qui sera évoqué à l'antenne vaut la peine d'être écouté. Un débat qui se limite à 2 courants de pensée sur 37. Mais il semble que la vérité soit loin d'être considérée comme nécessaire. Jacques Chirac, le 22 février 1988, précisa que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Comme quoi, on peut dire n'importe quoi. Que ce soit quand on est politique, mais aussi quand on travaille à la radio.
Peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment.
Autre technique, les fake news, ou l'art de créer de fausses informations. Et comme le rappelle si gentiment le principe de Brandolini ou asymétrie des baratins, il est bien plus difficile de rattraper une sottise qui a été dite que de formuler le mensonge. Le Rassemblement National, en introduisant la notion de submersion migratoire, crée une fake news, une information fausse. Il rend ainsi la tâche bien plus difficile à d'autres d'expliquer qu'il n'y a aucune invasion de méchants étrangers, qu'on peut toujours les accueillir à bras ouverts plutôt que de les repousser à la mer ou de les blesser avec du barbelé. Et qu'en plus, on pourrait aussi arrêter d'être responsable de bon nombre de conflits et de situations humanitaires, y compris le réchauffement climatique qui les fait migrer. Mais bien que le Front National soit extrêmement coutumier de la méthode, les fake news ne sont pas l'apanage du parti d'extrême droite. L'ancien président Trump en est un grand adepte. Mais on retrouve aussi cette politique de bas étage ici en France. Récemment, une candidate de LFI a publié sur son compte X, ex-Twitter, une infographie qui laisse à penser que ses adversaires, élus européens, seraient payés par des lobbies et donc seraient à leur solde. Sauf que pour ce qui concerne au moins l'un d'entre eux, le document cité précise bien que les salaires en question sont des droits d'auteur pour des ouvrages dont l'eurodéputé est l'auteur. Malheureusement, l'information est passée telle quelle, il sera difficile de démanteler toute confusion des genres. Quoi qu'il en soit, il s'agit de politiques de bas étage qui masquent tout l'intérêt de se démener pour le bien de tous dans la cité, en bref, faire de la politique. Une autre technique assez usuelle consiste à dénigrer la position ou les propos des autres. En ce qui concerne les engagements écologistes, les exemples ne manquent pas. Quand certains parlent de pastèques pour symboliser des écologistes qui seraient verts d'apparence mais communistes dans le fond. Un autre exemple, quand on parle de mouvance d'extrême gauche à propos de personnes qui tentent juste de protéger des acquis sociaux et qui tentent juste de laisser une planète habitable à nos enfants. Un autre exemple encore, quand un premier ministre parle d'éco-terrorisme à propos de personnes qui manifestent pour protéger le vivant et non de ceux qui exterminent le vivant. Dernier exemple, quand un sénateur parle du retour à la lampe à huile, c'est comme revenir à l'âge de pierre, et c'est revenir à un état où l'homme ne serait pas développé. Sauf qu'entre nous, à l'âge de pierre, il détenait bien des savoirs qui nous sont aujourd'hui loin d'être acquis. Connaissance des plantes, de l'environnement, capacité à se repérer dans l'espace, savoir manuel, savoir industriel comme la conservation des denrées, etc. On me chuchote à l'oreille que l'on sait taper sur un clavier d'ordinateur et faire bouger la souris. La bagatelle. Pour conclure sur cette partie, on peut reprendre les mots de Roland Gori dans La fabrique des imposteurs. L'imposteur est aujourd'hui dans nos sociétés comme un poisson dans l'eau. Faire prévaloir la forme sur le fond, valoriser les moyens plutôt que les fins, se fier à l'apparence et à la réputation plutôt qu'au travail et à la probité, préférer l'audience au mérite, opter pour le pragmatisme avantageux plutôt que pour le courage de la vérité, choisir l'opportunisme de l'opinion plutôt que tenir bon sur les valeurs, pratiquer l'art de l'illusion plutôt que s'émanciper par la pensée critique, s'abandonner aux fausses sécurités des procédures plutôt que se risquer à l'amour et à la création. Voilà le milieu où prospère l'imposture. Fin de la citation. Mais pour arriver à ses fins, il n'est pas inutile d'abrutir la population pour qu'elle n'ait pas envie de se renseigner. Car elle a les moyens de se renseigner, ne serait-ce qu'en utilisant Internet. Il suffit de taper « rapport du GIEC » pour tomber sur un texte d'une dizaine de pages qui résume chacune des publications de ce groupe. Il suffit de taper « chute de la biodiversité », ce qui renverra sur un rapport de l'IPBES, autant de documents synthétiques et très facilement lisibles qui donnent un aperçu assez succinct et fiable de l'état de notre planète. Mais comment diable en est-on arrivé à ce que lire 10 pages ou même regarder un film de Cyril Dion confortablement installé dans un canapé? Le choix est vaste, il y en a pour tous les goûts, pourtant personne ou presque ne le fait. Quand on parle écologie, on s'entend dire que c'est un sujet qui doit être attractif, comme si tout devait être de l'amusement et qu'apprendre la théorie de la relativité devrait être fait en regardant Mickey Mouse se trémousser, comme si le simple apprentissage n'était pas en soi attractif. Comment en arriver là? En détruisant les structures de l'enseignement, en transformant le bac par exemple en concours et non en validation des connaissances. Ce qui est terrible, c'est qu'au final, on fasse croire à des gens que les compétences et les acquis sont subalternes. On leur fait croire qu'ils ont un diplôme, sauf que ce diplôme, il ne représente pas grand-chose. On en arrive là aussi en détruisant ce que les jeunes ont appris. Une fois sortis de formation, on demande aux jeunes d'obéir et de remplir des tableurs Excel. Et en quelques temps, ils ont perdu toute capacité d'innover, de critiquer, de mettre en perspective ce qu'on leur dit. Et là, on peut clairement parler de la fabrique des ignorants, une fabrique à l'œuvre pour l'ensemble de la société, sauf pour ceux qui ont compris que ce n'est pas comme cela que l'on s'en sort. Ces fameuses élites, comme celles des classes prépa, mais aussi ceux que rarement on appelle élites, mais qui ont compris ce qui est important, ceux qui vont directement vers des activités utiles, les mains dans le bois ou la terre par exemple.
Acheter la vie, Monsanto veut avoir les mains sur les manettes, nourrir l'avenir selon ses envies, il veut contrôler le destin de l'humanité, inventer ce qui n'apporte pas de profit, il n'a pas le souci de l'égalité, les procès lucratifs se font sans compromis, qui de la poule ou de l'œuf. Le premier cri, demande à ton ami le bœuf, à quoi il est nourri, mais une bonne côtelette ne fait pas trop d'esprit, car aux OGM t'inquiète, elle doit être garantie.
Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons de doute et obscurantisme. Dans une première partie, nous avons parlé de plusieurs fabriques, celle des fake news ou autres vérités parallèles, la fabrique de l'ignorance et la fabrique des imposteurs. Intéressons-nous maintenant à la fabrique du déni ou plus efficace encore à la fabrique du doute. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le tabac est une source importante de difficultés pour la santé humaine. Quant aux pesticides, on sait aussi assez bien qu'ils ne sont pas très bons pour la santé et qu'ils sont partout, dans nos assiettes, dans les eaux souterraines et les rivières. De même, le plastique est présent un peu partout en quantité phénoménale. On en a fabriqué 8 milliards de tonnes, dont la plupart est dans la nature. Toujours est-il que nous sommes sauvés car Coca-Cola agit. La société finance le projet The Ocean Cleanup, une vaste fumisterie qui consiste à chaluter l'océan pour récolter quelques pailles de plastique égarées. Rien face à l'ampleur du problème, sauf que Coca-Cola surfe là-dessus pour faire oublier sa production massive de bouteilles en plastique.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Jacques Chirac au sommet de Johannesburg. Oui, mais des fois, on peut aussi ne pas voir l'information qui est masquée. Un exemple. En 2012, une étude montre que des abeilles exposées à de très faibles doses d'un pesticide les désorientaient. Elles ne retrouvaient plus leur ruche, ce qui les entraînait vers une issue fatale. Une chercheuse publie alors une réfutation des résultats, signée Helen Thompson et James Crowell. La réfutation ne s'appuie sur rien, sauf que James Crowell a des travaux financés par Syngenta, un producteur majeur de néonicotinoïdes. Helen Thompson, pour sa part, elle travaille pour cet industriel. L'histoire s'arrête là ? Non, Helen Thompson est autrice principale des rapports de l'IPBES sur la chute de biodiversité chez les pollinisateurs. Et la première version du document minimise largement l'impact des pesticides, voire occulte certains rapports scientifiques sur le sujet. Fort heureusement, des chercheurs extérieurs, relecteurs du rapport, réussiront à rendre le texte plus représentatif de l'état de connaissance en la matière. Il n'est pas seulement question de masquer, mais aussi de modifier des résultats en sa faveur. Aujourd'hui, une bonne partie des sciences sont créées par l'industrie. L'industrie finance les laboratoires, elle finance les études. Le tout pour mieux diluer les impacts de leurs pratiques. On pourrait dire, avec la complicité également des organes politiques non démocratiques, comme la Commission européenne, qui, au lieu de financer des laboratoires de recherche indépendants, préfère baser ses avis sur les seuls experts disponibles, ceux des laboratoires de l'industrie. Il faut tout de même préciser que la méthode n'est pas nouvelle. Ainsi, pour influencer le sommet de Rio en 1992, l'appel d'Heidelberg est un texte signé par 4000 scientifiques, dont environ 70 prix Nobel. Il s'attache à dénoncer, je cite, « l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement économique social ». Fin de la citation. Les signataires admettent que le réchauffement climatique existe et partagent les objectifs du sommet. Les sciences seraient ainsi à prendre avec des pincettes quand il s'agit de prendre des décisions. Un texte qui rappelle comme quoi il faut donner du crédit aux technico-rassuristes. En réalité, l'auteur de ce texte, Michel Salomon, est un médecin militaire, mais surtout un lobbyiste. Le texte est à l'initiative de lobbyistes de l'industrie de l'amiante, très rapidement rejoint par les lobbyistes du tabac, deux industries alors en difficulté, qui n'ont rien à voir avec le climat, mais elles ont façonné les modes de pensée sur un sujet connexe pour servir leurs propres intérêts. L'industrie du tabac va financer de la recherche sur d'autres sources de cancer que ceux du tabac, sur d'autres produits ayant un impact réel mais mineur face aux dommages de la cigarette. Ainsi, les maladies deviennent multifactorielles. Circuler, rien à voir. Dans une émission précédente, sur les pesticides, nous évoquions un exemple de cette fabrique du doute, de cette technique d'agiter un foulard, rouge pour faire illusion, tel un prestidigitateur et ainsi inciter à détourner le regard du plus important. Je vous propose de reprendre cet exemple parmi d'autres, mais un exemple révélateur. Une étude récente publiée dans le magazine Nature qui pointe l'aspect multifactoriel de la dégradation des sols. Étrangement, l'article de Libération commence en énumérant ainsi les causes de dégradation. Parmi elles, l'érosion par le vent et l'eau. Libération cite donc en premier l'érosion du vent et en dernier les pesticides. Pourtant, quand on lit l'étude, les pesticides polluent 52% des sols en Europe. Et l'érosion des vents, citée en premier dans l'article de Libération, seulement 5%. Étrange cette inversion des priorités. Cela pourrait mettre la puce à l'oreille. D'autant que l'étude parle de risques multifactoriels quand certains en fait prédominent. Alors, allons jeter un œil à l'article paru dans Nature. Rubrique données. On y trouve que les données sont celles du SDAC et en fouillant un peu, on trouve que les modèles de données ont été élaborés sur le modèle préconisé par Focus, un modèle dont la liste des relecteurs fait apparaître des majors de l'industrie chimique, Bayer, BASF ou des lobbyistes comme Exponent. Ce qui est très subtil, c'est que les personnes qui sont sensibles à l'environnement vont relayer l'information en la trouvant pertinente car ils lisent qu'il y a de nombreux facteurs et qu'un des facteurs principaux est la présence des pesticides. Cela dissémine l'information, lui donne du crédit. Sauf que les personnes qui sont peu averties sur la question, elles vont lire que c'est un problème multifactoriel et donc elles vont passer à côté du fait que les pesticides sont un élément majeur de la détérioration des sols et des eaux. Une position assez semblable à celle de ceux qui prétendent que la France, ce n'est que 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en omettant que cela ne compte pas le commerce importé, ne tient pas compte des émissions par habitant et ne tient pas non plus compte de notre dette historique. Bref, l'industrie de la chimie parvient ainsi à détourner l'attention des pesticides, comme l'industrie du tabac a pu le faire en son temps sur les effets néfastes de la cigarette. On continue sur la lancée. Avez-vous entendu parler de varroa, des frelons asiatiques qui attaquent les ruches? Certainement plus que des pesticides qui, à très faible dose, attaquent le système nerveux des abeilles, les désorientent et les vouent donc à une mort certaine quand elles ne peuvent plus retrouver le chemin de la ruche. Une ruche qui abrite un essaim bien fatigué de ses attaques chimiques. Un essaim faible, il sera moins capable de gérer les autres agressions plus naturelles. Finalement, c'est un écran de fumée supplémentaire pour masquer l'agrochimie. Ce qui signifie qu'il faut être extrêmement attentif aux moindres détails de ce qu'on lit ou entend. Bon, la parade, c'est juste de comprendre que nous vivons dans une civilisation où l'appât individuel du gain est important, que l'on extermine la biodiversité et que l'on pollue sans vergogne. Cela étant posé, finalement, la direction à suivre reste assez claire et l'on se passe facilement de toutes les diversions érigées sur le chemin. Faut-il encore être conscient de la présence de ces embûches? L'association Agir pour l'environnement a récemment publié un rapport sur le poids des lobbies sur les décisions européennes. Mais ce n'est qu'une synthèse d'un document officiel de l'Union européenne, un registre qui liste les actions de lobbying à l'égard des instances européennes. On y voit ainsi les sommes dépensées sur différentes périodes par des entités, que ce soit des institutions académiques, des associations et réseaux d'autorités publiques, des organisations non gouvernementales, mais surtout des compagnies et groupes, des cabinets d'avocats, des syndicats et associations professionnelles. On trouve ainsi dans ce tableau Greenpeace, mais aussi Total Energy, Bayer, Monsanto, BMW, etc. Le fichier, accessible à tous, permet de voir les sommes investies en lobbying et le nombre de salariés dédiés à ces tâches de lobbying. Le rapport se focalise sur les associations commerciales et professionnelles et les compagnies et groupes, qui correspondent à des entités représentant leurs propres intérêts ou intérêts collectifs de leurs membres. L'ensemble de ces acteurs a dépensé autour d'un milliard d'euros sur 11 mois. Les 100 principaux lobbies européens ont dépensé à eux seuls entre 265 et 297 millions d'euros afin d'influencer le processus législatif européen. Cela équivaut à une dépense moyenne de 400 000 euros par député. Et en termes de main-d'œuvre, les 5 715 organisations professionnelles ont, dans leur ensemble, employé 7 621 équivalents temps plein, soit une moyenne de 11 lobbyistes à la porte de chaque député. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, un acteur comme Total Energy a, selon ce rapport, dépensé environ 3 millions par an pour du lobbying, employé un peu plus de 4 personnes à temps plein et a reçu 58 millions de subventions de l'Union européenne. Finalement, c'est assez lucratif comme activité. À côté de cela, Greenpeace a dépensé 2 millions pour un peu moins de 3 employés. Mais bon, eux, c'est à but non lucratif, et pour le bien de tous, y compris des animaux. Pas juste pour une poignée d'aficionados de Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Le rapport a listé les 100 plus grands lobbyistes commerciaux et a extrait les données concernant les sommes allouées. Mais en y regardant de plus près, ces sommes sont fausses. En fait, elles sont sous-évaluées. Agir pour l'environnement a été en quelque sorte trop gentil. Pourquoi ? parce que si l'on consulte le document source de l'Union européenne, on voit apparaître les mêmes entreprises plusieurs fois, sous leur nom propre, mais aussi sous l'égide de différentes organisations, organisations non gouvernementales, associations académiques, etc. Bayer Monsanto se retrouve dans la Fédération des diabétiques, dans différents organismes promouvant l'industrie allemande, Association des vétérinaires et zoo, des verts et des pas mûrs. Il y a Bayer, mais il y a aussi toute l'industrie automobile et bien d'autres dans la même situation.
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'était Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.